Le journal Yves Decamp, bonsoir.
Bonsoir. La COP25 dans l'impasse à Madrid, la conférence de l'ONU sur le climat prolongée de 24 heures, se dirige tout doucement vers un constat d'échec. Quelques-uns des plus gros pollueurs de la planète, la Chine, le Brésil ou l'Inde, refusent de revoir à la hausse leurs engagements. Pas de répit dans la grève des transports ce week-end en région parisienne principalement. La semaine qui vient sera décisive. Le haut commissaire aux retraites, Jean-Paul Delevoye, fragilisé par les révélations sur ses différentes activités, a reçu ce samedi le soutien du Premier ministre qui juge sa bonne foi totale. Édouard Philippe qui appelle les grévistes à prendre leurs responsabilités pour Noël. Il le dit dans un entretien aux Parisiens. Dans ce journal également, des dizaines de milliers de manifestants contre l'extrême droite dans les rues de Rome. La décrue qui s'amorce dans le sud-ouest où les intempéries ont fait un mort, un disparu et 5 blessés. Mais les conditions météo s'améliorent. Et puis, une appli pour apprendre à se débrouiller rapidement en français. C'est la vie connectée de Christine Siméon.
France Inter.
24 heures de plus à discuter n'y changera sans doute rien. Après deux semaines de débats, les pays signataires de l'accord de Paris sur le climat, réunis à Madrid, n'auront pas réussi à s'entendre pour aller plus loin, pour revoir à la hausse leurs ambitions de réduction des émissions de CO2. Comme l'année dernière en Pologne, c'est sur un constat d'échec que va se conclure également la COP25, en renvoyant les décisions à la COP26, l'année prochaine à Glasgow. La déception est immense pour les associations et ONG qui ne se faisait pas beaucoup d'illusions d'ailleurs, mais voulait encore espérer. Mathieu de Taillac nous appelle de Madrid.
Ils se sont assis sur le sol, à quelques mètres des grandes salles où les représentants des États négocient un accord qui tarde à voir le jour. Ils ont appelé leur rassemblement l'Assemblée de clôture des peuples, en opposition à l'Assemblée officielle. Là, les représentants des ONG environnementalistes, des jeunes, des femmes ou encore des peuples indigènes prennent la parole. Ils disent leur déception, leur colère même, face à l'incapacité des pays à se mettre d'accord pour renforcer l'action face à l'urgence climatique. Ils parlent des crises déjà à l'œuvre sur leur territoire. Ils rappellent les manifestations à Madrid et ailleurs et critiquent la déconnexion qu'ils disent totale entre les peuples et leurs représentants à cette conférence. Pour eux, cette COP est déjà un échec, avant même que l'on ne connaisse ses conclusions. Leur mobilisation, en revanche, témoignerait d'une victoire citoyenne, le réveil des consciences. La plupart des interventions sont conclues d'un « Power to People, Climate Justice », le pouvoir au peuple, la justice climatique. Madrid, Mathieu de Taillac. France Inter.
Et les associations dénoncent à nouveau ce qu'elles appellent le greenwashing, tous ces pays qui se disent préoccupés par le climat mais ne font rien derrière. Que chacun prenne ses responsabilités pour Noël. Sur le front des grèves, aucune éclaircie n'est à attendre ce week-end ni sans doute dans les prochains jours, mais le Premier ministre, dans un entretien aux Parisiens à paraître demain, veut penser aux usagers des transports et aux Français qui préparent leur départ pour les fêtes. Le même Premier ministre qui a demandé à la SNCF de prévoir un plan de transport pour les départs de la semaine prochaine, en précisant les trains qui pourront circuler. Et c'est dans ce contexte que son monsieur retraite, Jean-Paul Delevoye, continue à être mis en cause pour n'avoir pas déclaré l'ensemble de ses activités à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, activités bénévoles pour l'essentiel, mais qui peuvent présenter pour certaines un risque de conflit d'intérêts. Je pense que la bonne foi de Jean-Paul Delevoye est totale, confie également Édouard Philippe aux Parisiens. Ce que ne croit pas en revanche l'association Anticorps, selon laquelle au bout d'un certain nombre d'omissions, la bonne foi doit être relativisée, comme le dit aussi le député de la France Insoumise, Éric Coquerel, qui demande au haut commissaire de prendre sa retraite avec son projet sous le bras.
Si je suis gentil, je dirais que quand on a autant de trous de mémoire, il est temps de partir à la retraite, et puis avec son projet sous le bras. Bon, si je suis plus réaliste, je dirais que ça devient inexcusable. Vous avez des oublis qui concernent des secteurs qui... que ce soit la SNCF, que ce soit le domaine de l'assurance, aurait dû évidemment être déclaré et même empêché à partir du moment où vous occupez un poste au gouvernement et surtout un poste concernant le dossier des retraites. Je demande son départ et je demande le départ de son du projet de retraite. Voilà, je demande les deux en même temps. Je pense que l'un et l'autre sont liés. Mais j'allais dire que son départ m'intéresse moins que le retrait de la réforme des retraites. Je ne voudrais pas non plus, si vous voulez, que on oublie l'objectif principal qui est une réforme qui est une véritable casse du système de retraite et de solidarité intergénérationnelle. Voilà, si en plus de ça, on peut avoir en prime le départ de M. Delevoye, ça sera toujours ça de prix.
Éric Coquerel sur France Info. Le parquet de Paris a demandé des précisions à la Haute Autorité sur les défauts de déclaration de Jean-Paul Delevoye, qui n'exclut pas de démissionner s'il doit devenir une gêne pour la réforme dont il est l'artisan. En attendant, c'est de cette ambiance un peu délétère qu'a été victime hier la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, obligée de quitter un stade sous les quolibets de quelques supporters. C'était à Saint-Ouen pour un match du Red Star, une ministre très en colère au lendemain de cet incident.
Je suis en colère parce que je pense que personne n'a le monopole du social et surtout pas ces quelques supporters qui prennent le football en otage, clairement. Aujourd'hui, entendre moi qui viens de la société civile, moi qui suis ancienne sportive, aujourd'hui ministre des Sports, t'as rien à faire ici, on est chez nous, va-t'en, t'es pas chez toi. Je suis dans un stade de foot, je vais voir des manifestations sportives en tant que citoyenne et en tant que ministre où je veux. Et ce type de manifestations qui m'obligent à quitter un stade sont pas acceptables à mes yeux.
Le président de la Fédération française de foot, Noël Le Graët, s'est excusé en jugeant inadmissible cette conduite des supporters. Le président du Red Star également, qui promet des sanctions contre les fauteurs de troubles. Rien de changé concrètement à ce chapitre grève, rien de changé pour demain, répétons-le. La SNCF a annoncé tout à l'heure un TGV sur 4, un TER sur 3, un Transilien sur 5, la RATP, 14 lignes de métro fermées à Paris demain, tout comme le RER A reste les bus, qui devraient circuler à 60%. Je ne crois pas, dit aussi Édouard Philippe dans cet entretien aux Parisiens, je ne crois pas que les Français accepteront que certains puissent les priver des fêtes de Noël. Mais on n'en est pas là pour les grévistes, dont certains manifestaient encore aujourd'hui. C'est bien la journée du 17, celle de mardi, qui sera déterminante. Arnaud Texier du syndicat SNUIPP d'Ille-et-Vilaine, au micro de Maxime Bossonnet.
Oui, la grande journée, ça sera mardi. Aujourd'hui, c'est pour que des personnes qui ne souhaitent pas être en grève les autres jours puissent venir. Mais on invite tout le monde à être vraiment en force mardi prochain. Ouais. Ce qu'a dit Édouard Philippe ne convainc pas du tout les enseignants, et d'ailleurs l'ensemble des salariés. On est très très loin du compte. On veut abandonner système par points. Les annonces qui font croire que certains gagneront, et gagneront peanuts. Et donc la réalité, c'est que tout le monde va être perdant avec ce système-là. C'est des annonces pour apaiser le mouvement, mais on n'est pas dupes.
Voilà, un manifestant de Rennes où beaucoup d'enseignants avaient pris place dans le cortège, comme à Nantes, Lyon ou encore Strasbourg. En bref, plusieurs dizaines de gilets jaunes dans l'aéroport de Roissy cet après-midi contre le projet de privatisation d'ADP. Ce n'est pas la première manifestation du genre, il n'y a pas eu de conséquences pour les passagers. Et puis à Saint-Martin, toujours des blocages sur l'île. Une partie de la population conteste le plan de prévention des risques naturels établi par les services de l'État après le passage de l'ouragan Irma. Il y a 2 ans, un plan qui prévoit de nouvelles zones rouges non constructibles. De nombreuses routes ont été bloquées à Saint-Martin par les manifestants, entraînant, selon la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, une insécurité intolérable. En Italie, des dizaines de milliers de sardines dans les rues de Rome. Les militants antifascistes ainsi baptisés ont envahi l'une des plus grandes places de la capitale italienne, devant Saint-Jean-de-Latran, pour dénoncer les discours de haine et de division de l'extrême droite et de son leader, Matteo Salvini. Rassemblement symbolique un mois tout juste après l'apparition du phénomène à Bologne. Et surtout l'occasion pour les sardines de donner une autre image de l'Italie. Bruce de Galzin.
Un simple camion pour servir d'estrade, à peine visible pour les dizaines de milliers de sardines. Une simple sono pour déclamer quelques poèmes que beaucoup ne pouvaient pas entendre. Mais cette place, si grande soit-elle, ne doit pas faire oublier les petites, selon Andrea, l'un des fondateurs des sardines.
La grandeur de la place, ça donne la mesure de la participation, du succès de la manifestation. Mais la beauté de la chose, ce sont ses valeurs, ses messages qui peuvent remplir les plus petites places d'Italie. La place Saint-Jean est un symbole, mais toutes les places sont tout aussi valables.
Beaucoup de jeunes, de familles, beaucoup de moins jeunes, comme Lucia, 80 ans, avec des idées politiques de gauche.
Je les encourage, car Romano Prodi les soutient, et j'espère qu'il va bien les conseiller, parce que c'est un homme sage, et en Italie, on en a bien peu.
Aucune banderole, aucun parti représenté, beaucoup de silence, pas de cris. C'est une autre image que donne le pays pour Emma, une Romaine de 48 ans.
Je crois que c'est bien que ce pays qui vient de vivre un cauchemar avec Salvini et cette droite qui est vraiment une mauvaise droite donne un témoignage que ce n'est pas tous les gens avec lui.
Dès demain, les fondateurs et organisateurs des Sardines se retrouvent pour évoquer leur avenir politique. Rome, Bruce de Galzin, France Inter.
En Algérie, la carotte et le bâton, c'est un grand classique. D'un côté, le nouveau président Abdelmadjid Tebboune qui tend la main aux contestataires, promet une nouvelle constitution, un référendum et promet d'appeler au gouvernement des jeunes et des femmes. De l'autre, de nouvelles arrestations parmi les manifestants, à Oran notamment, où un rassemblement a été empêché par les forces de l'ordre. Pour le tout récent Comité national de défense des détenus et de leurs familles, c'est par centaines que se comptent les arrestations politiques et la répression va crescendo. Mathilde Dehimi, envoyée spéciale de France Inter en Algérie, a rencontré le père de l'un de ses détenus, inquiet mais fier de son fils.
« Mon fils n'est pas un bandit », pose d'emblée Mostafa avant de raconter son arrestation dans une manifestation le 1er novembre, jour de fête nationale.
« Ils l'ont pris, il a été tabassé, malheureusement. Il avait des bleus un peu partout. »
On lui reproche d'avoir brandi le drapeau kabyle. Raouf, 30 ans, est incarcéré à la prison d'El Arach à Alger. Il vient d'arrêter sa grève de la faim.
« Ils n'ont rien fait de mal. » Ils ont mis que des slogans demandant une liberté, un pays honnête, des gens propres. C'est tout ce qu'ils ont demandé. Maintenant, on ne sait pas. Il est avec ses copains, ils s'entraident, ils font ce qu'ils peuvent. Pour son moral, il est meilleur que le mien. Il est très fort de caractère.
Depuis, Raouf attend son procès. Au tribunal, raconte Mostafa, ils n'ont pas trouvé son dossier. L'élection du nouveau président peut-elle changer le sort de son fils?
Je ne sais pas. Hier, il a parlé de justice. Oui. Ça dépend de quelle justice. On est dans le noir pour l'instant. Tout ce que je veux, c'est qu'on relâche tous ces prisonniers d'abord. Et à partir de là, s'il y a discussion, avec qui d'abord et comment?
L'histoire les jugera, ajoute Mostafa, sévère. Dans la même prison que Raouf se trouvent deux anciens premiers ministres lourdement condamnés mardi pour corruption. Algi, Arthur Gerbeau, Mathilde Dehimi, France Inter.
Retour en France au Havre où l'incendie qui s'était déclaré dans la nuit à la raffinerie Total de Gonfreville-Lorcher près du Havre est maintenant éteint. La raffinerie a été en partie mise à l'arrêt mais sans conséquence, dit-on, pour les livraisons. D'importants panaches de fumée ont recouvert ce matin une partie de l'agglomération sans risque pour les populations selon la préfecture et son secrétaire général adjoint qui se veut rassurant au téléphone de Delphine Garneau.
On a procédé à des mesures pour s'assurer que la qualité de l'air était satisfaisante. Les mesures montrent qu'il n'y a pas de toxicité. On a notamment fait des prélèvements pour tester le dioxyde de soufre, le dioxyde d'azote, l'hydrogène sulfuré et le monoxyde de carbone. Et tous les résultats sont positifs. Les pompiers sont venus en soutien pour les procédures d'évaluation, mais pas directement pour venir sur l'extinction du feu, quoi. Donc on est sur un feu qui est limité en réalité.
C'est quelque chose d'assez différent par rapport à, imaginons, Lubrizol par exemple.
Ah oui, oui, c'est de bien moindre importance. Bon, alors évidemment, comme c'est une raffinerie, ça demande une attention particulière, mais on est sur un sinistre qui est d'une bien, bien moindre ampleur.
Ah oui, l'usine Lubrizol, hasard de l'actualité, a partiellement rouvert ses portes ce matin à Rouen, aux grandes dames de la métropole et des associations de défense de l'environnement. Un mort, un disparu, cinq blessés, c'est le bilan ce soir des intempéries, vents violents et inondations qui ont frappé un grand quart sud-ouest du pays. Un septuagénaire emporté par un cours d'eau en Lot-et-Garonne n'a toujours pas été retrouvé. Une douzaine de départements restent en vigilance orange, bien que la décrue soit maintenant à peu près partout amorcée. 25 000 foyers sont par ailleurs toujours privés d'électricité. Attention, dans les Alpes, au risque d'avalanche, les vents violents de ces dernières heures ont entraîné l'annulation du slalom de Coupe du Monde qui devait se disputer ce matin à Val d'Isère et qui a été remis à demain en lieu et place du géant. Grosse déception ce samedi, bien sûr, pour les skieurs et leurs hôtes, Guillaume Batin.
Si les skieurs n'ont pas mal vécu cette journée sans compétition, comme Jean-Baptiste Grange.
On était vraiment dans une sorte d'attente. Il faut laisser retomber un peu tout ça, se reposer un maximum. Puis voilà, donc on va se remettre tranquillement sur un rythme de veille de course et demain de course. Donc voilà.
La déception est beaucoup plus grande pour l'équipe de pisteurs dirigée par Ingrid Jacquemot, qui prépare la piste depuis plusieurs semaines.
On ne peut pas lutter contre des conditions météo, même si on avait des bulletins qui annonçaient une amélioration on va dire un peu tardive dans l'après-midi, voilà, ça a pas fait, c'est hyper frustrant. Il y avait quand même des grosses rafales de vent, tout le monde l'a constaté, on a beaucoup de choses qui s'envolaient dans la raquette d'arrivée. Après, quand il y avait des accalmies, oui, c'est clair, ça pouvait partir. Mais ce qu'on veut aussi, et pour le spectacle et pour la télé, c'est hyper important, c'est d'avoir une course équitable et des belles images. Donc, c'est dur à accepter et on le subit. Donc, voilà, c'est difficile.
Val d'Isère était assurée pour ce genre de scénario. Elle va toucher le manque à gagner des droits de retransmission. Mais c'est mauvais pour son image, car c'est la troisième année consécutive que cela se produit. Pas de quoi remettre en cause pour l'instant sa présence dans le calendrier de la Coupe du Monde. À Val d'Isère, Guillaume Batin, France Inter.
Chez les femmes, le Super-G de Saint-Moritz en Suisse, lui, a bien eu lieu avec un doublé des Italiennes à l'arrivée. Sofia Goggia devant Frederica Brignone, première française Tessa Worley, 9e. En biathlon, le premier podium du français Émilien Jacquelin, arrivé 3e de la poursuite d'Oschfilsen en Autriche, comptant pour la Coupe du Monde. Épreuve de nouveau remportée par l'inévitable Norvégien Johannes Bø. 4 autres Français se classent dans les 10 premiers, dont Martin Fourcade, 10e. Et puis en Coupe d'Europe de rugby, c'est la fin de l'aventure pour le Loup, les Lyonnais, pourtant leader du top 14, mais battu à Trévise 25-22 et donc éliminé dès le premier tour. Ils avaient pourtant gagné le match aller 28-0 dans le groupe 5. Montpellier est également éliminé après sa défaite face à Toulouse 26-18. Allez, comment apprendre le français rapidement quand on arrive en France et qu'on se trouve en situation de détresse? C'est la question que vous vous êtes posée cette semaine dans votre vie connectée. Bonsoir Christine Siméon.
Bonsoir Yves.
Pour tous ces adultes qui ont besoin d'apprendre le français, d'apprendre à se débrouiller avec la langue française et donc savoir faire les démarches administratives indispensables, pour eux il existe une application qui s'appelle tout simplement J'apprends.
Et là, c'est moi, Gigi. Je suis ta colocataire. On habite ici, c'est notre appartement.
Cette semaine, regardons l'application J'apprends qui vient de sortir.
Pendant ce jeu, on va rencontrer beaucoup de gens et apprendre avec eux. C'est parti!
Il faut avoir un smartphone, mais pas besoin de savoir lire ou écrire. Téléchargez J'apprends et ça fonctionne beaucoup à l'oreille et avec des émojis pour commencer, avant de relier les sons à des syllabes écrites.
Salut, ça va?
Salut, ça va, on l'entend et ça s'affiche à l'écran avec un émoji bonjour et un émoji pouce en l'air, suivi d'un point d'interrogation. Et après, je suis invitée à répéter salut, ça va?
Alors on écoute Anna Catan, responsable pédagogique de l'organisme de formation Langue Plurielle qui est à l'origine de cette appli.
Ça c'est ce qui se passe dans les dialogues, donc l'appli reconnaît sa voix et puis ensuite il est amené à reconnaître le mot qu'il vient de prononcer. Donc on lui propose un petit quiz de 3 mots, donc quand par exemple il dit oui, oui aussi, on lui propose comme petite vignette oui, oui merci et oui aussi. Donc comme ça il doit faire l'effort d'une lecture réelle, il doit faire l'effort de choisir ce qui correspond le mieux à ce qu'il entend. Donc peu à peu on l'accompagne voilà vers l'entrée dans l'écrit et où mais l'expérience de l'entrée dans l'écrit est toujours soutenue par une expérience auditive de la langue.
En fait, l'appli est conçue comme un parcours jeu. Guidé par sa colocataire Gigi, par exemple, l'utilisateur ou l'utilisatrice explore la ville. Ou bien elle va se retrouver dans un centre de soins accueilli par Léo. Toutes les situations sont préparées avec des mots-outils ou des phrases courantes que l'on apprend à reconnaître aussi globalement.
On voit dans le premier épisode, par exemple, l'exercice du supermarché, il fait une petite activité, on appelle ça de la reconnaissance globale des mots, parce que ce sont des mots fréquents. Ben, il doit reconnaître le mot sucre, le mot café, quelque part dans un supermarché. Il nous arriverait la même chose en Bangladesh. Il faudrait acheter du sucre et du café. Il faudrait qu'on reconnaisse ces choses-là par le paquet et aussi le mot. Voilà. Donc en faisant leurs courses, c'est ce qui est proposé par ce mini-jeu.
Ce sont des formateurs de l'organisme Langue Plurielle qui ont développé ce mix de méthodes globales, de méthodes Montessori, de nouvelles approches sur le fonctionnement du cerveau. Et J'apprends est un outil complémentaire pour tous les formateurs et professeurs de français. Mais c'est aussi un jeu que l'on peut partager avec des voisins, des parents, en jouant à plusieurs, en se faisant aider quand on est perdu. Ça marche aussi. Je suis sûre que vous croisez fréquemment des personnes qui travaillent dans votre entreprise ou dans des restaurants et qui maîtrisent mal le français. Vous pouvez leur conseiller de se mettre sur J'apprends. J'apprends est gratuite, sans publicité. Elle fonctionne vraiment dans un esprit de service public.
Et ça vient de sortir, donc elle s'enrichira petit à petit au fil du temps. La vie connectée de Christine Siméon à retrouver bien sûr sur franceinter.fr. Un dernier mot dans ce journal. Avec la mort de l'acteur et chansonnier Bernard Lavalette, acteur de théâtre principalement, il avait joué beaucoup de second rôle au cinéma dans Le Viager, Un drôle de paroissien ou encore Le gendarme se marie. Il avait 93 ans, le temps
La météo avec les fermiers de Loué qui ne font rien. Rien que des poulets fermiers élevés en liberté. Loué, libre par nature.
Jean-Michel Golinski.
De meilleures conditions d'ensoleillement demain pour le sud de l'Aquitaine, le Midi-Pyrénées et du Golfe du Lion, la frontière italienne, avec tout de même un bémol à signaler pour la Corse où le vent sera sensible sous un ciel plus nébuleux sur la façade ouest de l'île. Également des entrées maritimes à signaler, elles seront plus denses en fin de journée du Roussillon aux côtes varoises. Du nord de l'Aquitaine au Poitou-Charentes et du Massif central au sud du bassin parisien jusqu'aux frontières du nord-est, ciel souvent gris et faiblement pluvieux. Plus haut, au nord d'un axe Pays Nantais, Île-de-France, Ardennes, nébulosité et aspect du ciel très changeant avec une alternance de trouées et d'averses. Et puis, on notera sur ces régions septentrionales un vent de secteur ouest souvent assez fort, avec des températures partout au-dessus des gelées en cours de nuit. Les valeurs vont culminer l'après-midi entre 10 et 14 degrés dans la moitié nord et 14 à 18 dans la partie sud.